Je vous dis bonjour en cette fête de Saint-Éric aujourd'hui. Saint-Éric, patron de nombreux jeunes Québécois, je pense bien de jeunes garçons de Montréal, c'est un nom très populaire depuis au moins 20 ans, qui tend à disparaître peut-être un peu. Saint-Éric, c'est un roi de Suède, un roi qui a beaucoup marqué la Suède, qui a été si populaire jusqu'à l'avènement du luthéranisme ou de la séparation de l'Église catholique de Suède de l'Église catholique de Rome, qu'il était considéré comme le grand saint de Suède. Et chose assez particulière, il est réputé en Suède, même encore aujourd'hui, comme étant un grand défenseur des droits de la femme. Et oui, au 12e siècle, c'est-à-dire qu'il est mort vers 1160, et il était déjà reconnu comme un grand défenseur des droits de la femme. C'était Éric IX. Il a été élu roi de Suède en 1150. Il n'a régné donc qu'une dizaine d'années. Il a entrepris une sorte de guerre, de croisade, si on veut, contre les Finlandais, les Finnois, pays voisins, comme on sait. Quand on regarde sur la carte, n'est-ce pas, vers le nord de l'Europe, on voit la Suède, d'abord la Norvège, la Suède et ensuite la Finlande. Ce sont des pays que j'ai eu la chance de visiter il y a bien longtemps. Des pays froids, c'est-à-dire froids, c'est pas si froid que ça parce que c'est baigné par le Gulf Stream, cette source d'eau chaude, n'est-ce pas, qui longe l'Amérique du Nord ici et qui se dirige vers le nord de l'Europe. Et finalement, qui fait de ces pays qui sont beaucoup plus au nord que le Québec, des pays tout à fait habitables. J'étais surpris. Et les gens sont parfois un peu froids, mais à force de les connaître, sont très attachants. Et donc, ce roi de Suède, au début de son règne, au milieu du 12e siècle, a attaqué les Finlandais, qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient, comme on dit, des païens, mais il n'a pas réussi à faire autre chose que de s'établir un peu sur la côte de la Finlande. Et il était accompagné du premier évêque d'Uppsala. Uppsala, qui est une ville de Suède, dans le nord de la Suède, une ville très importante sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'épanouissement du christianisme dans ces régions-là, et très réputée aussi pour sa cathédrale. La cathédrale d'Uppsala ou d'Uppsala est remarquable. J'y suis allé déjà, j'ai tourné un film là-bas d'ailleurs pour Radio-Canada, car c'est assez particulier. C'est tellement au nord que la nuit s'installe pendant un certain temps et le soleil ne revient plus. Le soleil ne réussit pas à se lever dans ces régions-là pendant un certain temps. Et quand le soleil finit par gagner sur la nuit à un moment donné, c'est une espèce de fête fantastique qui se déroule à Uppsala. J'ai assisté à ça, j'avais filmé ça d'ailleurs. Les jeunes gens qui sont les étudiants de l'université d'Uppsala, c'est une université très réputée, même aujourd'hui encore en cette fin de siècle, ça dure depuis des siècles, font des fêtes extraordinaires. C'est une réjouissance qui ressemble un peu au Mardi Gras. Mais il y a là une part de paganisme, évidemment, de retour dans l'admiration du soleil, mais chez les chrétiens, il y en a encore des chrétiens dans ces régions-là, malgré la baisse de la foi, comme un peu partout dans le monde, eh bien, il y a là aussi un ressourcement chrétien qui rappelle les fêtes de Pâques et la résurrection qui se déroulent toujours au printemps. Et alors, le premier évêque d'Uppsala, Henri, qui accompagnait le roi Éric, Saint-Éric, est mort assassiné en essayant de proclamer la foi aux Finlandais. Et alors, de retour en Suède, Éric IX s'occupe de l'administration de son royaume. Et on dit que, bien qu'on était au début du christianisme dans ces régions-là, il avait une profonde conscience chrétienne, une grande piété. Ça rappelle les récits des relations des jésuites au Québec, quand ils nous parlent des Hurons qui venaient d'être convertis et qui avaient comme ça, y compris leur chef, une grande conscience morale, une grande piété. Et Saint-Éric a construit des églises, il a favorisé le culte catholique, il a promulgué une législation qui défendait les droits de la femme. C'était unique, nouveau et absolument étonnant. Il est attaqué à l'improviste un jour, pendant qu'il assistait à la messe, par un prince danois, Magnus Eriksson. Très important prince danois dans l'histoire. Alors il a entendu la messe jusqu'à la fin. Et il a marché contre l'ennemi, avec ses soldats, mais il est tombé percé de coups à l'emplacement d'Uppsala. Oui, Uppsala aujourd'hui. Le 18 mai 1160. C'est aujourd'hui le 18 mai. Mais les circonstances exactes et les détails de sa vie ont été perdus. Ça a été écrit, mais c'est perdu. C'est donc entouré d'une certaine obscurité. Il a été honoré après sa mort pour ses vertus de roi et pour ses mœurs austères. Hein, il s'est voulu vraiment un catholique sincère, sérieux et profond. Ça, on le sait par les documents sûrs. Il a été le grand patron de la Suède catholique du 13e au 16e siècle, au moment de l'apparition du luthéranisme en Suède. Ses reliques, toutefois, sont toujours conservées dans l'église d'Uppsala. Et dans les cérémonies d'autrefois, on portait des bannières. Même quand j'étais jeune, on portait encore des bannières. Je l'explique pour ceux qui ne sauraient plus ce que c'est que des bannières. C'est-à-dire, deux personnes portaient, ou parfois une seule personne portait, de longues tiges de bois auxquelles était attachée en haut une grande pièce de tissu habituellement brodée ou peinte en l'honneur d'un saint ou en l'honneur de la Vierge ou en l'honneur du Christ. C'était en somme d'immenses icônes, si on veut, en tissu, et qui honoraient ainsi des personnages de la foi. Et alors, les bannières de Saint-Éric en Suède ont joué un immense rôle, hein, un peu comme celle de Saint-Denis dans l'histoire de la France. Maintenant, nous allons passer à un archevêque de Canterbury, un homme extrêmement important dans l'histoire de l'Église d'Angleterre, mais si peu connu. Si peu connu et pourtant, quel homme important! C'est Saint Dunstan, ou Dunstan si on veut, ça s'écrit D-U-N-S-T-A-N. Pourquoi est-il important cet archevêque de Canterbury? D'abord, il faut bien se rappeler que l'archevêque actuel de Canterbury est chef de l'Église anglicane, séparée de Rome depuis le début du XVIe siècle, c'est-à-dire vers 1532-1534. C'est, je le rappelle, en grande partie à cause d'une certaine décadence de l'Église catholique en Angleterre. Les monastères profitaient de leur pouvoir, des dons qui leur avaient été faits. Ils avaient des terres immenses et ramassaient énormément d'argent, paraît-il. Et le roi, comme la cour, avait besoin, dit-on, de cet argent pour des guerres parfois, ou aussi, sans doute, pour prélever des impôts et voir au bien de la population. Mais par contre, il y avait des monastères qui étaient excellents. Il y avait même des saints évêques. On sait que l'un d'entre eux, John Fisher, qui était évêque à cette époque, a été déclaré saint par l'Église catholique, car il est mort martyr. On sait qu'il y avait des laïcs à l'époque qui étaient remarquables. Qu'il suffise de se rappeler au moment de cette malheureuse scission de l'Église d'Angleterre et de l'Église catholique de Rome, qui est le grand chancelier d'Angleterre, le bras droit du roi Henri VIII, a été canonisé aussi, Thomas More, qui était un des hommes les plus érudits, les plus savants de toute l'Europe, au même titre qu'Érasme. C'était un personnage fantastique et j'imagine que certains d'entre vous ont pu voir ce magnifique film, fait d'ailleurs par des Anglais, qui s'appelle Man for All Seasons, c'est-à-dire un homme de toutes les saisons. Et c'est la vie de Saint Thomas More qui a eu la tête tranchée et qui a laissé des écrits de prison qui sont superbes. Il faut lire ça, les écrits de prison de Thomas More, où il se refuse à toute concession devant le roi qui veut briser l'Église en deux. Il croyait, lui, à la réforme à l'intérieur de l'Église, alors que d'autres Anglais, sans doute sincères, j'imagine, ont cru à la réforme en séparant l'Église. C'est un point de vue qui peut se maintenir, il peut se comprendre. On n'a pas vécu à cette époque, et c'est difficile pour nous catholiques, parfois, de juger. On ne peut pas juger. Moi, du moins, je ne veux pas juger. Saint Dunstan, donc, était archevêque de Canterbury plusieurs siècles. C'est au Xe siècle, donc 6 ou 7 siècles avant ce malheureux schisme. Il était bénédictin, un abbé bénédictin, qui a su profiter de la grande réforme des bénédictins en France, faite par l'abbaye de Cluny. Un jour, il faudra bien parler de l'abbaye de Cluny. Phénomène fantastique dans l'histoire de l'Église, ces bénédictins, qui vivaient à raison de 2000 moines à l'abbaye de Cluny, sans compter les gens qui étaient attachés au monastère. Ils avaient 5000 monastères par toute l'Europe. J'en ai déjà glissé déjà un mot, n'est-ce pas, il y a 2 semaines. Alors, l'abbaye de Cluny avait fait une réforme magnifique, extrêmement importante. Et alors, Dunstan est associé à ce mouvement de réforme monastique qui se produisait en Angleterre au Xe siècle, au même moment que l'abbaye de Cluny se répandait à travers toute l'Europe. Ça a couvert je ne sais combien de pays. Donc, en l'année 1910, naît Dunstan. Il naît dans le comté de Somerset, non loin de Glastonbury. C'est là qu'il y a été abbé d'un monastère. Il est né dans une famille assez étonnante. Son oncle est devenu archevêque de Canterbury avant lui. Un autre oncle, on dit un cousin, en fait, était évêque de Winchester. C'est dire qu'il appartenait à une famille de clercs très importante, des gens instruits et des gens qui ont beaucoup marqué l'Église d'Angleterre. L'abbaye dont il a été nommé abbé faisait partie d'ailleurs du domaine de la couronne. Elle était desservie par une communauté qui s'était laissée aller. À l'époque, il y avait eu des guerres avec les Danois précédemment et beaucoup de monastères avaient été saccagés. Les moines appauvris menaient parfois des vies assez curieuses. Dunstan, ce qui est assez intéressant pour les gens qui aiment les icônes de nos jours, les miniatures, les dessins religieux anciens, eh bien, était un très grand spécialiste, car il a reçu une formation au monastère de peintre, de calligraphe, de miniaturiste. Il est devenu même un ciseleur de métaux. Il jouait la harpe. Il a même laissé des œuvres musicales que l'on retrouve à la bibliothèque du Vatican, comme le Kyrie Rex Splendens numéro 7, qui lui est attribué avec grande certitude. Et on dit qu'à peine sorti de l'enfance, Son oncle, archevêque de Canterbury, qui s'appelait Athelm, l'a introduit à la cour du roi, où il a trouvé, entre autres compagnons, des jeunes princes. Il n'a pas réussi à se faire aimer par ces gens qui étaient parfois un peu dissipés, mais aussi peut-être parce qu'il leur semblait beaucoup trop supérieur à eux. Il était brillant. Il avait aussi une très grande conscience morale, hein? Et ça ne plaisait pas toujours aux gens de la cour. Alors, un jour, quelqu'un d'assez important, Gilbert Douriac, a répandu la nouvelle. Ça pouvait se faire, on est au 10e siècle. Hein? On a répandu la nouvelle un peu partout, la calomnie, que Dunstan était un sorcier et que sa vertu n'était qu'une apparence. Mais elle était gênante, sa vertu. Et quoi qu'il en soit, Dunstan a été renvoyé de la cour, le roi ayant cru ces rumeurs. Son oncle de Canterbury, l'archevêque de Canterbury, était mort. Mais un autre, son autre oncle, Elfège, était évêque de Winchester, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'a accueilli chez lui. Il a reçu donc la tonsure, finalement, plutôt que de se marier. Il hésitait entre les deux. Et ça lui a conféré un titre à vivre dans la communauté de Glastonbury, dans le monastère, sans lui créer aucune obligation. Il se sentait libéré. On peut pas dire qu'il était un saint à ce moment-là, pas du tout. Il cherchait plutôt un refuge. Et il pensait toujours au mariage, malgré la tonsure et malgré sa présence dans ce monastère. Et puis son oncle lui parlait plutôt de la vie monastique comme étant sa vocation. Et il est tombé malade, et au creux de la maladie, dans ce 10e siècle, il a été guéri, on ne sait pas comment, parce qu'on n'avait pas vraiment les remèdes qu'il fallait. Hein. Et il a cru voir là un signe de Dieu. Et alors, il a décidé de recevoir le sacerdoce de la main de son oncle, Elfège, évêque de Winchester. Et puis, il a demandé aussi le sacerdoce pour son ami, un ami qui lui était très cher, Ethelwood, qui deviendra un bénédictin aussi remarquable comme lui. Et alors, il a été rappelé à la cour par un nouveau roi, le roi Edmond, qui a régné de 939 à 946, c'est pas très longtemps, 7 ans seulement, qui a fait de lui son conseiller. Dunstan est donc devenu un homme extrêmement populaire dans l'Angleterre. Et finalement, le roi lui a donné l'abbaye de Glastonbury, dont il est devenu abbé, là où il était né. Et puis, on peut supposer que Dunstan avait déjà songé, n'est-ce pas, à la réforme monastique de ce monastère. Il en avait parlé au roi. Puis là, il était en mesure de réaliser ses projets. Alors, il a fait d'abord une restauration matérielle, hein. Ça n'a pas été négligé. Il fallait vraiment réorganiser les bâtiments, reconstruire les parties qui avaient été dévastées par les soldats danois, les envahisseurs danois du siècle précédent. Mais surtout, il s'est appliqué à former les moines, hein, à les instruire, à faire que vraiment on observe la règle de Saint-Benoît qui est si belle. Avez-vous déjà lu la règle de Saint-Benoît? Ça peut pas en sembler benet à lire comme ça. Pas du tout, c'est d'une grande richesse. Je me souviens d'un livre d'un athée, un sociologue athée belge qui écrivait dans ce livre intitulé curieusement « Le monde vivant des religieux ». Oh, c'est paru il y a une trentaine d'années, ça, j'avais lu ça, j'étais bien jeune. Et il disait que la règle de Saint-Benoît était au fondement de notre civilisation occidentale. Elle était, par son sens démocratique, étonnant, hein, une règle démocratique, à la source de la démocratie anglaise du 12e siècle et finalement à la grande démocratie véritable qui a pu subsister ici et là dans de nombreux pays. Et je crois que jusqu'à un certain point, nous avons une véritable démocratie ici au Québec, au Canada. Nous savons en tous les cas que Glastonbury, ce monastère, devint une pépinière d'abbés. Oui, oui, des pères abbés, c'est-à-dire des supérieurs de monastères. Hein. Une pépinière d'évêques aussi et d'archevêques. Hein. Et son ami Ethelwood, dont je vous ai parlé, qui avait rejoint Dunstan, a trouvé son régime pas assez austère à son goût. Lui, il était encore plus sévère que Dunstan. Et alors, il s'est préparé à aller chercher mieux sur le continent. Et puis, il voulait traverser en France pour aller trouver un monastère plus sévère. Quand la reine-mère, qui était une femme très intelligente et très intéressante, il faut lire la vie de la reine-mère, eh bien, elle lui a donné l'abbaye d'Abington. Puis il en a fait un foyer de réforme de la vie monastique en Angleterre. Comme quoi, dans l'Église, tout le long de l'histoire de l'Église, naissent et apparaissent comme ça des gens qui sont des réformateurs, des gens qui vont au creux de l'Évangile, au creux de la règle des différents ordres ou des différentes congrégations pour redonner l'esprit profond. C'est ce dont, je crois, nous avons le plus besoin ici, là, c'est de réforme, pas dans le sens de l'intégrisme, mais dans le sens de l'Esprit Saint, dans le sens de la foi profonde. On en a besoin dans certaines de nos paroisses, dans certaines de nos communautés. On en a surtout besoin dans nos propres vies, à nous-mêmes, le matin, dès le matin, se réformer. Et l'exemple que nous donne ici Ethelwood est très intéressant. Au point de vue politique, Dunstan, quant à lui, cherchait à procurer l'unification de la nation anglaise par l'assimilation de l'élément danois qui s'était installé. Il ne voulait pas opprimer ces Danois-là qui étaient là, mais il voulait les assimiler. Il y a réussi. Il a voulu fortifier l'autorité du roi. Il y avait des rois chrétiens à l'époque, des rois qui avaient de l'allure. Et sur le terrain religieux, il a poursuivi la réforme du clergé séculier et du clergé régulier. Ceux qui s'opposaient à lui, et il en trouvait, même jusque dans sa propre parenté, eh bien, il sévissait contre eux. Il a même réussi à en chasser de la cour du roi. Mais à un moment donné, ses opposants qui ne voulaient pas de telles réformes ont paru triompher. Quand Edwy est devenu roi, un nouveau roi, un jeune garçon de 16 ans, qui était débauché, puis assez inconséquent. Alors, Dunstan a dû s'exiler et s'est rendu à Gand, en Belgique, la Belgique d'aujourd'hui. Il a passé là 2 ans dans un monastère qu'on appelle Saint-Pierre de Gand, et qui venait d'être réformé par la grande abbaye de Cluny, des bénédictins donc toujours. Et puis, Dunstan s'est enrichi là d'une nouvelle expérience monastique. Mais le frère cadet de ce jeune roi de 16 ans, Edgar, a été proclamé roi contre son aîné. Alors, il était tout jeune roi encore. Il était seul souverain à partir de 959. Il s'était empressé, ce jeune roi, de rappeler en Angleterre Dunstan, qui était l'abbé de Glastonbury. Et il lui a donné l'évêché de Worcester, ou Worcester, si vous voulez, mais ça se prononce Worcester, en 958, puis finalement, notre ami Dunstan est devenu évêque de Londres l'année suivante. Et finalement, en 960, il est devenu archevêque de Canterbury, c'est-à-dire l'archevêque le plus important d'Angleterre, le siège primatial. Un peu comme ici, au Québec, au Canada, le siège primatial est celui de Québec, qui est le siège le plus important d'évêque au Canada. Peu après, Dunstan a consacré des évêques. C'était 2 autres réformateurs monastiques, 2 moines à l'esprit réformateur. Oswald, qui avait été formé en France, à Fleury, et qui a été évêque aussi de Worcester. Et Ethelwood, son ami, qui a pris le siège de Winchester, laissé par l'oncle de Dunstan. Et alors, le mouvement de réforme avait à sa tête 3 des plus importants abbés de monastère devenus évêques, et ça atteint son apogée sous le règne de ce jeune roi Edgar, puis 30 de monastères d'hommes finalement, 6 monastères de moniales ont participé à cette excellente réforme qui a transformé la vie spirituelle de l'Angleterre. Comme quoi, les bénédictins du fond de leur monastère, lorsqu'ils sont appelés de temps en temps à prendre de grandes responsabilités, peuvent transformer toute une église et tout un pays. Mais, entre-temps, des lois du royaume qui était porté par l'inspiration de l'archevêque Dunstan, ont extirpé, pour ainsi dire, complètement le paganisme. Ça a répandu la décence, puis aussi la dignité du culte. Rien n'est plus important souvent pour les fidèles, pour les laïcs, que la dignité du culte. Quand des fidèles attendent que la messe commence et qu'on sent que le culte va être célébré avec dignité, c'est-à-dire avec le respect de la présence de Dieu, le cœur d'une église, c'est là qu'est la présence de Dieu faite plus sensible pour les fidèles. Non pas que la présence de Dieu ne soit pas partout, elle est partout. Dieu est partout. Mais les fidèles se rassemblent dans une église pour y retrouver un surcroît de foi, de rencontre de Dieu. Quand des fidèles partent de chez eux le dimanche ou sur semaine, ils se rendent vers Dieu leur Père. Ils se rendent pour adorer, glorifier, vénérer cette présence. Il faut donc que les ministres du culte, je dirais même, il faudrait que le sacristain, les religieuses, les personnes qui s'occupent de la pastorale et qui ont à entrer pour déposer ne serait-ce que des burettes, pour préparer l'autel, le fassent avec un infini respect, et que surtout, les prêtres, nos chers prêtres, renouvellent de plus en plus au fond de leur cœur ce sens de la présence de Dieu à l'autel majeur. Lieu de la rencontre de l'éternité et du temps. Lieu de la rencontre de Dieu et de la matière. Dieu qui se fait matière à nos yeux sous les espèces du pain et du vin. Corps et sang vivant de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ce n'est pas de peu de choses. C'est Dunstan qui un jour, notre archevêque de Canterbury, qui avait parlé contre le roi. Et le roi lui en voulait. Et alors, le roi se présente, lui tend la main, et Dunstan ne lui serre pas la main. Et lui dit, « La main qui tient le corps du Christ ne peut serrer la vôtre tant que vous ne vous serez amendé de votre péché. » Il était dur, hein? Il n'y allait pas de main morte, surtout en public. Ce sont des choses qui sont du 10e siècle. On imagine peu ça aujourd'hui, c'est à peu près impensable. Mais on peut le comprendre si on se situe à l'époque. Et on peut admirer ce geste, sans l'accepter pour nos jours, évidemment. Je ne serais pas d'accord que le pape refuse de serrer la main à un grand chef communiste, il l'a fait. Et je crois qu'il devait le faire. Il a bien fait. Et donc, Dunstan a instruit le clergé. Il a épuré les groupes de chanoines qui célébraient l'office dans les cathédrales, dans les églises. Et même, il est allé, quand les chanoines ne voulaient pas se réformer, eh bien, il les a chassés puis les a remplacés par des moines qui étaient allés chercher dans des monastères. Il n'y allait pas de main morte, hein. Et puis, il organisait des synodes. Nous allons en avoir un à Montréal à compter du mois de septembre. Il est annoncé de plus en plus par l'abbé Marcel Lefebvre, qui en est l'organisateur, le responsable au nom des évêques. Eh bien, ces synodes assuraient l'efficacité puis la durée des mesures que l'archevêque de Canterbury prenait pour transformer l'Église d'Angleterre. Et à la mort du roi Edgar en 973, puis l'assassinat de Saint-Édouard le martyr en 978, ça a marqué pour Saint-Dunstan la fin de son rôle de conseiller de la couronne et son diocèse de Canterbury était absorbé par l'activité des dernières allées, alors on nous le montre, qui veille à la célébration de l'office divin. Il apaise les querelles, il secourt les pauvres. Il emploie même les premières clartés du jour. N'oublions pas qu'il n'y avait pas d'électricité dans le temps, évidemment. Il était difficile de s'éclairer. Eh bien, les premières clartés du jour, il corrige encore des manuscrits Je vous rappelle, hein, c'est un spécialiste des manuscrits. Il aimait faire des enluminures, des dessins admirables. Hein. Il mourut à Canterbury, donc, le surlendemain de l'Ascension, le 19 mai. C'est demain, sa fête. A éclipsé le grand réformateur qui était Dunstan. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, mais je vous en ai parlé lundi, consulter en bibliothèque car ça coûte très cher, mais on peut, si on a les moyens, se les acheter, c'est les 11 magnifiques volumes de l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne. 11 volumes, le dernier c'est de l'index, le premier c'est une série d'études sur la sainteté. Et dans le magnifique tome 5, on a la vie de Saint Dunstan. Il y a là des enluminures. Oh, j'en compte je ne sais combien. Il y en a certainement 7 ou 8. Car l'article est assez long, 7 ou 8 pages. Mais c'est magnifique, absolument superbe. Et puis, on parle même des biographes de Dunstan. On parle des règles qu'il a formées. On parle de toutes sortes de choses extrêmement intéressantes. Je vous conseille vivement de lire à l'occasion l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne paru chez Hachette et distribué ici au Québec par Anne Sigier à Québec. Saint Dioscore. Vous allez me dire, Saint Dioscore. Non, c'est très, très, très intéressant. C'est un homme qui a vécu en Égypte. On y retourne en Égypte. C'est la grande époque du christianisme en Égypte. Hein. L'Égypte était un très grand pays chrétien avant l'arrivée des musulmans, malheureusement, au 7e siècle, ou heureusement pour eux, mais malheureusement pour les chrétiens qui furent bannis ou forcés de se convertir à l'époque, les religions n'hésitez pas parfois, n'est-ce pas, convertir de force. Les chrétiens se battaient entre eux. On a déjà parlé des Ariens chrétiens et des catholiques qui étaient en grande difficulté à cette même époque, vers l'an 300. Eh bien, voici donc que sous Dioclétien, ce fameux persécuteur des chrétiens, n'est-ce pas, l'empereur de Rome, en 303... la persécution sévissait de façon épouvantable. Hein. Dioclétien a publié un édit qui ordonnait, écoutez bien ça, qui ordonnait la destruction des églises. Ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas, en Russie soviétique? La destruction des églises et des livres saints même. Il privait les chrétiens de leurs charges. Aucun chrétien ne pouvait occuper une charge importante. Pensons alors aux persécutions qui se déroulaient en régime communiste. C'était la même chose. Hein. Un chrétien orthodoxe sérieux, et encore moins un chrétien catholique, les rares, pouvait occuper des postes importants dans de tels régimes. C'était impensable. Hein. Par contre, je vous signale que sous le régime dictatorial de Saddam Hussein, son bras droit est un chrétien, hein. Tarek Aziz. C'est assez curieux. Mais il faut quand même reconnaître ce qui est dans ce pays musulman. Par contre, revenons à Dioclétien qui enlevait aussi aux chrétiens toute dignité, leur titre, leurs privilèges, et même il leur interdisait, imaginez, d'ester en justice, c'est-à-dire de soutenir une action en justice, d'être défendeur ou même demandeur. Non. Alors, sous cette persécution qui a commencé en 303, à travers l'Empire, ça s'étendait jusqu'à l'Égypte, eh bien, on a présumé que les clercs, c'est-à-dire les gens instruits, qui savaient lire et écrire, exerçaient la fonction de lecteur, c'est-à-dire de lecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un lecteur? On ordonnait au lectorat, dans l'Église catholique, même quand j'étais jeune, Les séminaristes, hein, on les tonsurait, puis ensuite on les ordonnait à différents ordres mineurs, qu'on disait mineurs, et l'un d'entre eux était le lectorat, c'est-à-dire l'autorisation de lire en public les Écritures. Pas l'Évangile, mais les Écritures, hors les Évangiles. Les Évangiles étaient réservés aux prêtres ou aux diacres. Donc, on s'est attaqué aux lecteurs. On se dit, ils doivent cacher des livres saints. Faut les brûler. Et alors, les lecteurs ont été traqués par la police. Et ainsi, dans une ville, Sinopolis, ça veut dire ville d'ailleurs, Sinopolis en Égypte, on a arrêté Dioscore, qui était fils d'un lecteur. Et chose étonnante, on a le texte exact de son procès. Il a été sauvé. C'est un des rares cas où on peut présumer avec presque entière certitude, que tout le dialogue est exact. Les plus grands savants s'entendent à le reconnaître. Je vais vous en lire tout à l'heure de brefs extraits parce que c'est un peu long. Alors, on s'est dit que Dioscore était le complice de son père lecteur. Il va donc avoir des livres. Alors, ils l'ont fait comparaître devant le gouverneur de la province d'Alexandrie. Alexandrie, en Égypte, une ville extrêmement importante où la très haute science, les grandes bibliothèques, c'était extraordinaire, Alexandrie. Et c'est en ruine aujourd'hui, il ne reste plus rien, c'est dommage. Alors, le procès verbal de cette audience nous est parvenu. Il n'a pas été malmené par les copistes. Alors, voici le début. Dioscore ayant été amené, le président Culcien dit « Pour quelle cause Dioscore est-il traduit en justice ?» Alors, du greffe, ceux qui prenaient des notes, ont dit, Dionecta, curateur de la cité de Sinopolis, l'a envoyé comme chrétien qui refuse d'obéir à l'édit impérial. Et un peu plus loin, Culcien dit, Dioscore, j'ai appris que tu es très savant. Alors, immole et obéit aux ordres des empereurs. Et le jeune Dioscore répond, je n'immole ni ne suis des dieux de cette sorte, mais je ne suis que le seul Dieu, le mien, Jésus-Christ, le vrai Dieu. Alors Culcien, le président du tribunal, lui dit, à quel Dieu immoles-tu ainsi? Il répond, au vrai Dieu, qui n'est pas vu par les hommes s'ils n'ont pas le cœur droit. C'est très beau, hein? C'est un très beau dialogue. Es-tu lecteur? Non, je ne le suis pas, mais mon père était lecteur. Immole maintenant et obéis aux ordres de nos maîtres, les Césars Augustes. Et Dioscore répond, je n'immole pas des dieux de cette espèce, et je ne les suis pas. J'ai un roi céleste, qui appellera en jugement les vivants et les morts, qui règne sur le monde maintenant et dans tous les siècles. En le croyant, je n'aurai pas à rougir, mais je resterai dans sa vérité pour l'éternité. C'est très beau, je resterai dans sa vérité pour l'éternité. Et le président lui dit, immole et épargne ton corps, j'ai déjà préparé des tourments très rigoureux pour toi et pour tous ceux qui résistent à ce culte. Et Dioscore répond, tes tourments sont petits. La foi du Christ Jésus qui me soutient est grande, elle. Toi, tu as seulement le pouvoir de tuer mon corps. Sur l'âme et l'esprit, tu n'as aucun pouvoir. Alors le président se fâche et dit, déchirez-le avec des ongles de fer. Et Dioscore répond, je ne sens pas ces tourments. J'attends le banquet céleste. Alors Culcien ordonne de chauffer 3 fers et de brûler son corps. Quand il eut été brûlé par 2 fers, il n'avait rien senti. C'est toujours le document de l'époque que je lis là. Culcien ordonne alors d'appliquer le 3e fer rouge. Mais pendant qu'il le touchait, les bourreaux trouvèrent que son corps était comme mouillé par la rosée d'hiver. Dioscore dit, « Penses-tu, président, que ton feu puisse me torturer? » Et Culcien lui répond, « Si donc tu es chrétien, je t'ordonne de parler de la doctrine des chrétiens. » Et il répond, c'est assez sympathique, parce qu'on voit comme chrétien que sa foi s'établit aussi sur ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Notre foi est d'origine juive. Ne te souviens-tu pas des 3 enfants?
auquel le feu du roi Nabuchodonosor ne put rien faire, car survint un vent rafraîchissant comme la rosée. Ton feu n'est pas pénible. Tu n'es pas préparé à comprendre cela. Tu penses que c'est nous qui parlons. Ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit Saint de Jésus lui-même. C'est lui qui nous inspire. Alors, le Christ est-il Dieu? Il répond, c'est le Dieu des dieux. Est-ce le Dieu qui est né d'une femme? Il répond, nous sommes tous vivifiés en Marie, qui a engendré Jésus-Christ notre Seigneur. Alors là, le sujet de conversation change. Le président lui demande, Paul était-il Dieu? Il répond, non, mais il avait l'Esprit de Dieu. Alors, on lui dit, immole maintenant. Il dit, je n'immole pas, si ce n'est au seul vrai Dieu, car je suis soutenu par la foi. On lui demande, « As-tu ton père ?» Il répond, « Je ne l'ai pas, mais j'ai un père, le vrai roi du ciel. » Plus loin, il dit, « Maintenant, réfléchis, Dioscore, si tu veux, je te donne 2 jours pour changer. » Il ajoute, « Épargne-toi et immole. » Et voici la longue réponse de Dioscore, « Je suis chrétien, je n'immole pas. » Elle viendra un peu plus loin, sa réponse. Et Julien, le greffier, lui dit, « Si tu le tourmentais et que tu faisais souffrir chaque place de son corps par des tourments, alors il obéirait aux lois des rois. » Alors le président Culcien dit, « Suspendez-le et posez 2 lampes brûlantes sur son corps. » Et tandis que son corps était brûlé pendant 1/2 heure, il ne répondit rien. Mais ses yeux étaient levés vers le ciel. Il voyait une vision et une force qui le réconfortait, et il criait vers Dieu en disant, « Ouvre les yeux des bourreaux, Seigneur, afin qu'ils voient la lumière et n'errent plus. » On dit, « Mais ça n'a pas de sens, il priait pour ses bourreaux. » Mais au 20e siècle, quantité, je vous l'assure, quantité de chrétiens qui ont été torturés, tant en Amérique du Sud que derrière le rideau de fer, et qui s'en sont sauvés, ont affirmé avoir prié pendant les tortures pour leurs bourreaux. Et on le sent, ces gens-là ne diraient pas ça à l'écran de télévision sans ce ton de sincérité profonde, si ce n'était vrai, il me semble. Alors quand les bourreaux eurent vu une espèce de lumière, ils enlevèrent leurs lampes, le feu ne put lui faire aucun mal, et Julien, l'aide du greffier, a dit, « Tu vois comme il a persuadé les bourreaux. » Et les bourreaux ont dit au président, « C'est que nous avons vu la lumière de Dieu vaincre la lumière de ce monde. » Et Culcien dit à Dioscore, « Immole maintenant, épargne-toi et quitte ta folie. » Et voici la fin, la rigueur du supplice n'a rien qui doive nous surprendre de la part des persécuteurs, surtout en Égypte. On est amené à penser que Dioscore, durant son supplice, était en extase et restait insensible aux brûlures dont tous les assistants pouvaient constater la réalité. C'est un phénomène que l'on a constaté souvent, c'est un phénomène que l'on a constaté même dans ce siècle, où sous le phénomène de l'extase, ou de la conviction profonde de l'importance de Dieu, de l'importance de leur union à Dieu, des martyrs n'ont rien senti. Et le culte de Saint Dioscore, qui est très, très ancien, mais qui a été oublié, mais on en trouve mention à différentes dates, et nous, les latins, les chrétiens latins, ont retenu le 18 mai. Le texte qui nous est parvenu nous semble authentique pour différents détails sur lesquels j'ai sauté. Mais ce sont des détails qui sont un peu difficiles à comprendre, c'est pour ça que je ne me les explique pas. Mais croyez-moi sur parole, les détails sont si authentiques que tous les historiens s'entendent pour dire que le texte est authentique. Je ne vous ai lu que des parties spirituelles qui peuvent nous nourrir, parce qu'on a peu de temps, n'est-ce pas? Alors, l'historien arabe Abu Salih, au XIIIe siècle, signale en Égypte, encore après la conquête musulmane, n'est-ce pas, 6 siècles plus tard, 2 églises qui sont dédiées à Saint Dioscore. Il restait encore 2 églises. Et j'imagine que les Coptes doivent avoir encore aujourd'hui des églises qui lui sont dédiées. Saint Dioscore, D-I-O-S-C-O-R-E. C'est un document très ancien qui nous indique que nos ancêtres dans la foi ont subi souvent des martyrs épouvantables Et c'est arrivé aussi au Canada, en Ontario, quand on a martyrisé, n'est-ce pas, les jésuites, les premiers jésuites qui sont venus évangéliser les Amérindiens.